VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bienvenue dans cette édition du 8 avril 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au moins un mort au Bénin lors d'une intervention militaire contre des manifestants dénonçant l'absence d'opposants à la présidentielle de dimanche. À 3 jours de la présidentielle au Tchad, Human Rights Watch dénonce l'usage excessif de la force contre des manifestants. Sommet régional d'urgence à Maputo sur les attaques des groupes djihadistes au Mozambique. Le président Joe Biden a annoncé des mesures pour limiter la prolifération des armes à feu aux États-Unis. Après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. Au Bénin, au moins une personne a été tuée par balle et 3 ont été blessés ce jeudi lors d'une intervention de l'armée pour disperser des manifestants qui protestaient contre l'absence de l'opposition à l'élection présidentielle de dimanche. Le point avec Ginette Fleuradandé.
Tôt ce mardi 6 avril, les manifestants ont pris d'assaut plusieurs villes du Bénin à travers des manifestations qui ont très tôt débouché sur des actes de vandalisme. Talon dégage 5 ans, c'est 5 ans, pas un jour de plus, peut-on lire sur des pancartes et banderoles. Tout a commencé par un direct fait par Komi Koutié, ancien ministre des Finances de l'ex-président Yahi Boni, appelant les Béninois à s'opposer à la prolongation du mandat de Patrice Talon. Les manifestations auraient été plus violentes dans le nord du Bénin avec des blessés. Ce jeudi, les soldats ont c'est des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Nous avons reçu un cas de décès par balle et 6 personnes blessées par balle, a affirmé José Gojo, le directeur du dispensaire de Boni, un quartier de la ville de Savet, dans le centre du Bénin. Des soldats sont intervenus dans la matinée à Savet pour déblayer les barrages montés depuis lundi par les protestataires sur la route principale. Selon des témoins, les militaires ont d'abord fait usage de grenades lacrymogènes, puis tiré en l'air pour disperser les manifestants avant de dégager la chaussée. Devant les dégâts, après une seule journée de manifestation, les acteurs politiques ont appelé à la paix. Le médiateur de la République appelle au calme et à la tolérance. Joseph Yolofon est le médiateur de la République.
La recherche constante de la paix en vue d'une quiétude et d'une stabilité sociale exige des comportements requis. Chers compatriotes, nous avons besoin de continuer à vivre dans la fraternité. Parce que dans notre existence de nation, toute déchirure du tissu social compromet la concorde, fracture la cohésion sociale et fragilise l'unité nationale.
En début d'après-midi, la ville de Savet était totalement déserte et de nouveautés ont été entendues vers 13h45 heure locale. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Charles Blé Goudé, ancien ministre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a exprimé dans un communiqué sa gratitude au président Alassane Ouattara au lendemain du feu vert à leur retour après leur acquittement par la CPI. Le président Ouattara a annoncé hier qu'ils étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. L'État prendra en charge le voyage de M. Gbagbo et sa famille et l'ancien président bénéficiera des avantages et indemnités dus aux ex-chefs d'État ivoiriens, a précisé M. Ouattara. Dans le sud-est du Nigeria, 2 policiers ont été blessés dans l'attaque d'un poste de police hier. 3e incident du genre depuis lundi. Des hommes armés ont pris d'assaut le quartier général de la police à Mbieri dans l'état d'Imo, déclenchant une fusillade avec les policiers. L'attaque a été repoussée selon le porte-parole de la police de l'état, Orlando Ikeoku. La recrudescence d'attaques dans cette région est imputée au groupe séparatiste IPOB qui dément toute implication. Le gouvernement sénégalais a annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante sur les troubles de début mars. Il s'agit de rétablir les faits, a déclaré devant la presse le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. Le gouvernement a été accusé par l'opposition d'être responsable de la mort d'au moins 13 personnes tuées, selon elle, dans la répression de la contestation. Le Danemark compte envoyer 100 de soldats au Mali début 2022 pour renforcer la force européenne Takuba, pilotée par la France, a annoncé le gouvernement danois. alors que Paris tente d'obtenir des renforts. Censée former l'armée malienne face aux djihadistes, cette unité spéciale comprend notamment des militaires d'Estonie, de la Suède et de République tchèque dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest progresse avec près de 20 millions de personnes en situation de crise, avertit le réseau de prévention des crises alimentaires, réuni ce jeudi en visioconférence. Selon le réseau, plus de 27 millions de personnes risquent d'avoir besoin d'assistance immédiate durant la période de soudure entre juin et août, soit plus de 9% de la population des 14 pays concernés. Le Nigeria pourrait compter près de 13 millions de personnes en crise alimentaire cet été. Human Rights Watch accuse les forces de sécurité au Tchad d'avoir violemment réprimé des opposants. Les Tchadiens se rendent aux urnes dimanche pour la présidentielle. 6 candidats seront en lice face à Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon des témoins interrogés par Human Rights Watch, des forces de sécurité ont passé à tabac des manifestants avec des fouets, des bâtons et des matraques. Ils ont eu recours à des gaz lacrymogènes et ont procédé à l'arrestation arbitraire d'au moins 112 membres et sympathisants de partis d'opposition et d'activistes de la société civile, dont certains ont été roués de coups. L'ONG dénonce un usage excessif de la force contre des manifestants, des traitements inhumains et dégradants, ainsi que le recours à la torture. Le ministre tchadien de la Justice, Djimet Arabi, a de son côté estimé que les forces de l'ordre avaient agi avec professionnalisme. Les manifestations interdites par les autorités engendraient parfois de la violence avec des manifestants brûlant des pneus sur diverses routes, a-t-il ajouté. Depuis plusieurs mois, des partis et organisations de la société civile appellent chaque samedi à marcher pacifiquement pour une alternance au pouvoir. Le 28 février, la police et l'armée ont mené un raid meurtrier au domicile d'un candidat à la présidentielle, Yahya Diallo. Les autorités ont déclaré qu'il avait opposé une résistance armée. Monsieur Diallo, qui a nié ces allégations, est aujourd'hui en fuite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a récemment déploré le recours à la force dans le processus électoral.
Les violences des groupes djihadistes dans le nord-est du Mozambique depuis 2017 avec la récente attaque contre la ville de Palma font l'objet d'un sommet régional à Maputo. Le point avec Rosine Munezero.
6 présidents de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se sont réunis ce jeudi en urgence à Maputo, la capitale mozambicaine, pour plancher sur la menace djihadiste. Selon plusieurs analystes, la sécurité régionale est désormais en jeu, tout comme l'avenir du projet gazier de plusieurs milliards d'euros opéré par Total dans le nord-est du Mozambique, le plus gros investissement sur le continent africain. Les flux commerciaux sont également menacés, selon les spécialistes, notamment les échanges maritimes par le canal du Mozambique et terrestres avec le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe enclavés. Le 24 mars, un raid sanglant et minutieusement préparé a frappé Palma, une petite ville portuaire de 75 000 habitants, à seulement quelques kilomètres du méga-projet gazier du groupe français Total sur la péninsule d'Afungi. Les djihadistes mozambicains ont déjà pris pour cible des villes et villages du sud de la Tanzanie. Un raid meurtrier a notamment touché la ville d'Omtwara en octobre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a dévoilé ce jeudi des mesures visant à limiter la prolifération des armes à feu aux États-Unis, où les fusillades sont un fléau récurrent. Un extrait de son discours.
La violence armée en Amérique, pour ceux d'entre vous qui regardez ça d'un point de vue économique, écoutez-moi, cette violence coûterait à la nation 280 milliards, je répète, 280 milliards de dollars par an. Alors, comment cela pourrait être, Joe, vous vous dites? Les frais d'hospitalisation, la physiothérapie, la prise en charge en traumatologie, les frais juridiques, les frais de prison et la perte de productivité. Sans parler des dommages psychologiques causés aux enfants qui vivent dans ces villes et qui regardent cela se produire en connaissant quelqu'un à qui c'est arrivé. Cette violence armée dans nos quartiers a un impact profond sur nos enfants, même s'ils ne sont jamais impliqués en appuyant sur la gâchette ou en étant la victime. Pour une fraction du coût de la violence armée, nous pouvons sauver des vies, créer des communautés sûres et saines, bâtir des économies qui fonctionnent pour tous et économiser des milliards de dollars américains.
And save billions of American dollars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gipour.
Le Burkina Faso a levé hier 88 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine au terme de son émission d'ODR, des obligations de relance du trésor, rapporte Financial Afrique. Ces ODR visent à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Burkina Faso dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie du Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Au Mali, la mine d'or Siama produira 2,9 millions d'onces jusqu'en 2031 à un coût global de 1 000 dollars l'once. C'est ce que révèle le plan minier actualisé publié hier par Resolute Mining. Ces prévisions dépendent en partie de l'entrée en production en 2024 du gisement souterrain Tabakoroni. Avec une durée de vie de 7 ans, il viendra remplacer la production d'or à partir de minerais d'oxyde de Siama dont les réserves s'épuiseront fin 2023. Les États-Unis ont encouragé aujourd'hui les grandes économies à poursuivre leurs efforts financiers pour assurer une solide croissance mondiale et ont signalé leur volonté d'être au cœur de l'aide internationale. Dans une déclaration adressée au comité de pilotage du FMI, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré exhorter les grandes économies à ne pas retirer leur soutien trop tôt et à s'efforcer de fournir de nouvelles aides budgétaires importantes pour garantir une reprise robuste.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La star américaine du football féminin, Megan Rapinoe, estime que le report des Jeux Olympiques en raison de la pandémie de Covid-19 pourrait donner un coup de pouce à sa sélection qui visera un doublé historique à Tokyo cet été. Le côté malgré tout positif du Covid et de la pandémie, c'est que cela a permis d'avoir une année de repos. Certaines ont joué à l'étranger, d'autres ont pris plus de temps pour elles, du temps que nous n'avons jamais vraiment pour remettre nos corps en état, affirme la joueuse du club où elle règne. Les Américaines ont pour objectif de devenir la première équipe à enchaîner un triomphe en Coupe du Monde avec une médaille d'or olympique alors qu'elles se préparent pour les Jeux qui auront lieu du 23 juillet au 8 août au Japon. Parlant justement des JO en athlétisme, l'Américaine Allyson Felix, septuple championne olympique et la plus titrée de l'histoire de l'athlétisme féminin, dit qu'elle disputerait à Tokyo cet été ses derniers Jeux olympiques, même si elle n'a pas encore décidé d'arrêter sa carrière. Au Japon, l'athlète de 35 ans disputera ses 5e JO. Au total, elle cumule 9 podiums olympiques, dont 6 sacres. Elle a par ailleurs glané 13 titres de championne du monde. Alors qu'elle se concentrait dernièrement sur le 400 mètres, elle compte participer aux 400 mètres et aux 200 mètres aux sélections olympiques des États-Unis en Oregon en juin prochain. NBA, Brooklyn reprend la tête à l'Est avec comme note positive le retour de KD Bagasikura.
Oui, avec Kevin Durant de retour après avoir manqué 23 matchs à cause d'une blessure, les Nets ont largement dominé les New Orleans Pelicans 139-111. Ils reprennent les commandes de la conférence Est où leur mano à mano avec Philadelphie continue. Kevin Durant, lui, a joué 19 minutes pendant lesquelles il a inscrit 17 points avec un 100% de réussite, 5 sur 5 au tir et au lancer franc. L'autre équipe de New York, celle des Knicks, s'est inclinée de justesse à Boston face aux Celtics 101-99. Dans le match au sommet de la conférence Ouest, les Phoenix Suns ont arraché en prolongation la victoire 117-113 contre le leader Utah. Dans les autres rencontres, a signalé la victoire de Denver contre San Antonio 106 à 96 et celle de Charlotte à Oklahoma City 113-102.
Merci, Bagasikura.
Merci beaucoup, Yakuba, pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Bénin, au moins une personne a été tuée ce jeudi et 6 autres blessées lors d'une intervention de l'armée qui a fait usage de gaz lacrymogène dans le centre du pays. L'intervention visait à disperser des manifestants protestant contre l'absence d'opposants à la présidentielle de dimanche. Le nord et le centre du Bénin ont été secoués par plusieurs manifestations cette semaine. Pour une réaction, John Linden a joint à Cotonou le professeur Roger Gbenonvi, un ancien ministre proche du pouvoir.
Un mort et des blessés, c'est infiniment regrettable et c'est mort et des blessés de trop. Maintenant, on parle de confiscation des pouvoirs par Patrice Talon. Non, de mon point de vue, il n'y a pas confiscation des pouvoirs parce que toutes les décisions qui sont en train d'être appliquées, y compris ce que les gens appellent la prolongation illégale de son mandat, toutes les décisions ont été actées par le Parlement et par la Cour constitutionnelle. Or, nous sommes dans un état de droit. Une fois que le Parlement et la Cour constitutionnelle ont dit que c'est le droit, ben, nous devons avancer dans le droit en attendant de changer le droit si nous ne sommes pas d'accord avec. Voilà. Et je regrette infiniment le mort et les blessés. Le Bénin n'a pas l'habitude de ces tueries et de ces blessés pour une simple élection.
Alors, plusieurs manifestants dénoncent l'absence d'une réelle opposition au scrutin présidentiel de dimanche. Est-ce que c'est le cas et comment en est-on arrivé là?
Écoutez, chers amis, c'est de leur droit de manifester et de dénoncer ce qu'ils appellent l'absence d'une véritable opposition. Moi aussi, bien que du côté de Patrice Talon, mais ce n'est pas de la faute de Patrice Talon, si l'opposition n'est pas structurée, et si l'opposition n'a pas de leader, et si l'opposition n'a pas un projet de société différent de celui de Talon à nous proposer.
Patrice Talon avait dit lors de son premier mandat qu'il prendrait les rênes du pays pour un seul mandat. En cours de route, il a changé d'avis. Pourquoi?
Non, cher ami, il n'a pas changé d'avis. C'est nous qui lui avons dit, et je suis parti de ceux qui lui ont dit, non, monsieur le candidat ou monsieur le président devenu, notre constitution est très belle comme elle est. Nous voulons deux mandats de 5 ans. À partir de ce moment, il était bien obligé d'accepter que nous ayons une constitution à 2 mandats possibles.
En fin de compte, c'est le peuple béninois qui décidera donc de qui sera le prochain président. Est-ce que la transparence est de mise lors de ce scrutin de dimanche?
Ce scrutin présidentiel sera transparent, mon cher ami, et sera transparent, hélas, je connais un peu l'histoire, transparent à la manière soviétique. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis des lustres, s'achève un mandat qui a des résultats à offrir, qui a des résultats à montrer, qui a des résultats palpables. Et le peuple, qui est analphabète, mais qui n'est pas bête, voit ces résultats. Et la peur que j'ai, moi personnellement, je vous la confie cette peur, c'est que le 11 avril prochain au soir, nous ayons un score à la soviétique. Je dis 80%. J'ai des gens qui disent « Non, M. Gbenonvi, nous voulons 98%. » Et ce n'est pas impossible parce que les deux autres candidats, personnellement, je ne les vois pas. Ils n'existent pas sur le terrain et c'est quelque part dommage pour notre belle démocratie béninoise.
Le professeur et ancien ministre béninois Roger Gbenonvi joint à Cotonou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis réclament aux autorités du Mali un calendrier définitif confirmant les dates du processus électoral. Des élections sont prévues début 2022 au terme d'une période de transition de 18 mois ayant suivi le coup d'État d'août dernier. mais aucune date précise n'a encore été annoncée. Yacouba Ouédraogo a joint Marisa Scott Torres, une porte-parole du département d'État américain.
C'est tellement important d'avoir une date pour commencer, pour avoir une feuille de route. Comment est-ce que nous, pas seulement les États-Unis, mais tous les partenaires de la communauté internationale, comment nous allons continuer pour améliorer la situation au Sahel, surtout au Mali?
Est-ce que les États-Unis ont des craintes par rapport à la tenue des élections d'ici la fin de la transition?
Bien sûr, nous sommes préoccupés par la montée de l'extrémisme violent, les problèmes de gouvernance et les préoccupations humanitaires dans la région. Donc, pour nous, ce qui est important, comme j'ai dit, l'amélioration de coordination et aussi de promouvoir la promotion de la stabilité au Mali.
Qu'est-ce que vous entendez par stabilité? Des élections claires et nettes?
On veut que les élections soient équitables, bien sûr, transparentes.
Vous avez parlé de la situation sécuritaire. Elle s'est détériorée depuis le début de l'année avec des attaques multipliées des djihadistes. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions-là, il serait possible de tenir des élections d'ici la fin de la transition?
Les autorités de facto du Mali maintenant ont engagé le gouvernement de transition à organiser des élections, comme vous avez dit, dans un délai de 18 mois. Les États-Unis continuent de travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux et régionaux pour assurer la dynamique vers un retour à l'ordre constitutionnel.
Est-ce que vous avez foi que d'ici début 2022, les opérations électorales peuvent être en cours et qu'au plus tard, à la fin des 18 mois, la transition aurait organisé les élections, transmis le pouvoir et fait place aux nouvelles autorités?
Est-ce que nous avons, le gouvernement africain, peur?
Exactement.
Peur, c'est pas le mot correct. Peut-être il y a un peu d'inquiétude. Bien sûr, la situation au Mali, mais y compris la COVID-19 et l'instabilité dans la région. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent poser des problèmes vers les élections en Mali au début de 2022.
Que fait exactement les États-Unis et la communauté internationale pour accompagner la transition dans ce processus électoral?
Le Mali reste un élément central de la stabilité future du Sahel. On a ajouté une aide humanitaire de 80 millions de dollars. Et l'année dernière, en septembre, octobre, on a donné 150 millions de dollars pour le Mali, le Burkina Faso et aussi la Mauritanie. Nous facilitons également de l'engagement à prendre au griffes sous-jacentes du peuple malien, notamment en matière de sécurité, de gouvernance, de droits de l'homme, de renouvellement, de contrats sociaux, de réformes électorales et de mise en œuvre de l'accord d'Alger.
Est-ce que tout cela ne fait pas trop pour une transition de 18 mois?
Pas du tout.
Marisa Scott Torres, porte-parole en langue française du département d'État américain, était jointe à Johannesburg en Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La nouvelle présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé cette semaine que les médias fermés par son prédécesseur Feu John Magufuli pourraient rouvrir. Le porte-parole du gouvernement a toutefois déclaré hier qu'il ne s'agissait que de la télévision en ligne, une précision qui a semé confusion et mécontentement chez les journalistes. Un reportage de Charles Combé à Dar es Salaam, le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Cette semaine, les journalistes tanzaniens ont applaudi l'annonce de la présidente Samia Hassan, selon laquelle les organisations de médias suspendues sous l'ancien président John Magufuli seraient autorisées à rouvrir. L'enthousiasme a été de courte durée, car dès le lendemain, le nouveau porte-parole du gouvernement précisait que l'annonce de la présidente s'appliquait uniquement aux chaînes de télévision en ligne. Neville Mina fait partie du forum des éditeurs tanzaniens. Pour lui, c'est le ministère de l'Information qui ne suit pas les directives de la présidente.
Dans son communiqué de presse sur les déclarations de la présidente, le porte-parole du gouvernement avait écrit que l'une des directives était la réouverture de tous les médias suspendus. Plus tard, il est revenu sur ce qu'il avait écrit. À mon avis, cette contradiction a été créée par les mêmes personnes qui étaient au ministère de l'Information sous la direction de Feu John Magufuli.
Issam Bourra est maître de conférence à l'école de journalisme de l'université de Dar es Salaam.
tunaogopa nini? Yani, kwa nini?
La première question que je me suis posée était, de quoi avons-nous peur? Pourquoi la déclaration faite et l'ordre donné par la personne occupant la position la plus élevée ont-ils été modifiés plus tard par une personne occupant une position inférieure?
Le ministre de l'Information, Innocent Bashungwa, a déclaré que le gouvernement était prêt à rencontrer les propriétaires des médias suspendus et à discuter de leur réouverture.
S'il y a des situations avec certains médias, ils devraient venir à mon bureau pour en discuter. Si un autre média, qui n'est pas une chaîne de télévision en ligne, veut rouvrir, il y a eu des raisons pour sa suspension et des lois ont été appliquées. Je pense que la loi a également donné des directives concernant une reprise des activités de ces médias.
Les militants des droits de l'homme disent qu'il n'y a pas de liberté partielle de la presse et qu'elle devrait être pleinement accordée. Anna Enga est la directrice exécutive du Centre juridique des droits de l'homme en Tanzanie.
Si un média est libre et qu'un autre ne l'est pas, ce n'est pas la liberté. La liberté signifie que tout le monde est libre et c'est le sens réel de la liberté. Nous considérons cela comme le refus des autorités de mettre en œuvre les instructions de la présidente. La présidente donne des instructions et vous leur donnez une autre interprétation. Je pense que ce n'est pas quelque chose de bon pour les fonctionnaires.
Dans l'état actuel des choses, Kwanza TV, un média appartenant à l'activiste et critique du gouvernement, Maria Sarungi, sera autorisé à rouvrir, tandis que 4 journaux fermés par le gouvernement de Magufuli le resteront.
La sécurité au Capitole est toujours source de préoccupation après une deuxième attaque meurtrière en moins de 3 mois visant la police. Dans son reportage, la correspondante au Congrès de la Voix de l'Amérique, Catherine Gibson, aborde les décisions difficiles qui attendent les responsables politiques américains qui doivent à la fois protéger ce haut lieu de la démocratie et permettre au public d'y avoir accès. Le récit est d'Abdourah.
L'un des bâtiments les plus connus du pays, attaqué pour la deuxième fois cette année. Le policier William Evans est décédé la semaine dernière lorsqu'un assaillant a percuté sa voiture contre une barrière en béton construite pour protéger le Capitole après les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Rick Nelson est analyste au Centre d'études stratégiques internationales.
Ce qui a marché, c'est le fait que le véhicule a été arrêté, l'accès de l'intrus a été limité et la police a pu réagir et neutraliser une menace contre ceux qui se trouvaient au Capitole.
Cette attaque survient moins de 3 mois après qu'un autre officier de la police du Capitole a perdu la vie lors de l'émeute du 6 janvier par des partisans de Trump tentant d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, soulevant de nouvelles questions sur la protection des législateurs.
La police du Capitole est très limitée sur ce qu'elle peut faire. Avec environ 2300 personnes, 2000 policiers et 300 civils, pour une mission extraordinairement vaste et étendue.
Après les émeutes, des milliers de soldats de la garde nationale et une clôture métallique ont renforcé la sécurité autour du Capitole, changeant ce qui était autrefois le plus accessible de tous les bâtiments du gouvernement américain. Caroline Gallaher est professeure à l'American University.
La démocratie repose sur un gouvernement ouvert. Et si vous avez toutes ces clôtures et toutes ces barricades autour du Capitole, cela suggère que le gouvernement n'est pas ouvert.
Un rapport sur la sécurité publié le mois dernier par le lieutenant général à la retraite Russell Honoré a recommandé des clôtures mobiles permanentes et une garde montée autour du Capitole. Le député Tim Ryan dirige le panel qui supervise la police du Capitole.
Nous ne pouvons avancer sans savoir que nous avons la capacité de protéger le Capitole. Pour mettre en œuvre ce qui est dans le rapport du général Honoré, nous devons regarder cela et voir exactement comment cela s'est passé.
« Les clôtures autour du Capitole ont déclenché un vif débat sur son accessibilité au public. Les législateurs démocrates favorisent des procédures de sécurité renforcées, tandis que les républicains soutiennent que la clôture devait être entièrement supprimée.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com, nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon